Objectif municipal. Les candidats aux élections locales des 15 et 22 mars 2026 face aux journalistes de nos rédactions.
Bonjour amis auditeurs, aujourd'hui on reçoit Vincent Léoni qui est un des candidats à la mairie de Limoges, qui n'est pas un petit candidat, qui est un des 8 candidats qui sont en lice pour cette élection des 15 et 22 mars 2026. Alors Vincent Léoni est un peu un coureur de fond en matière de candidature puisqu'il a... Il a été un des premiers à déclarer sa candidature, comme va nous le dire notre consoeur Lucie Alix, qui vous a préparé un petit portrait.
Alors effectivement, Denis, Vincent Léoni est même le premier à s'être déclaré candidat aux élections municipales de Limoges. Il affichait son ambition de mener une liste dès mars 2025. Il a créé le même mois un mouvement politique baptisé Réunir. Dans la vie de tous les jours, Vincent Léoni est attaché principal des administrations de l'État. Concrètement, il accompagne les professeurs et les agents de l'Université de Limoges dans leur développement professionnel et leur parcours de carrière. Du côté de la politique, il est adjoint au maire depuis 2014. En 2020, se chargeait de l'urbanisme figuré dès le premier tour aux côtés du maire sortant. Vincent Léoni a plusieurs autres casquettes. D'abord vice-président de Limoges Métropole, en charge de l'aménagement de l'espace, de l'accessibilité et du plan local d'urbanisme, mais aussi président du syndicat intercommunal d'études et de programmation de l'agglomération de Limoges.
Merci Lucie. Donc Vincent Léoni, c'est, je dirais, la saison 2, puisque la dernière fois en 2020, vous étiez aussi candidat au premier tour sur une liste solo et vous êtes réunis au second ou je me trompe ?
Non, vous vous trompez. En fait, on est même sur l'épisode 3 maintenant des municipales et on pourrait même aller sur l'épisode 4. En fait, déjà en 2007-2008, je faisais partie d'une liste, une liste de rassemblement de la droite et du centre portée par Camille Jetier. En 2014, j'ai voulu qu'il y ait une liste centriste, centrale, qui existe, et j'avais initié justement un rassemblement de l'UDI, à l'époque c'était des différents partis centristes qui existaient, notamment le MoDem, il y avait Nadine Rivet, il y avait Philippe Pouliot de Faille, et c'est cette liste-là de rassemblement et mon Limoges qui avait été ensuite portée par Pierre Coineau, puisque Pierre Coineau n'était pas à l'initiative de cette liste-là, de ce rassemblement-là. C'était vraiment un rassemblement au départ de centristes. Et c'est Pierre qui est venu en plus parce que c'était certainement une personnalité rassembleuse qui faisait justement qui montrait que la société civile pouvait aussi s'impliquer. Ça faisait déjà partie, moi, des idées que j'avais de faire une plus large part à la société civile, même si j'aime pas le terme parce qu'on en fait tous partie finalement. Mais en tout cas, un peu moins politicienne. Et puis, donc ça, c'est l'épisode 2. L'épisode 3, c'est 2020. 2020, j'ai été directement sur la liste d'Émile Roger Lamberti, une liste de rassemblement. J'aime à rappeler que j'ai été le dernier à arriver sur cette liste-là. Parce que justement, je partais du principe que il n'y avait pas de reconduction automatique. Que si on devait repartir ensemble, c'était pour un nouveau contrat. Et comme tout contrat, il se discute. Pas pour la place, parce que les négociations de place sous, ça c'est, je laisse ça à mes petits camarades, mais plus sur les négociations de programme. Et moi, je voulais qu'on échange avant de dire on y va, ensemble, sur le programme, sur ce que l'on fait ensemble. Bon, finalement, ça s'est fait. Donc j'ai rejoint Émile Roger Lamberti pour un second mandat, qui a été victorieux, qui a certainement été moins, je trouve que ce second mandat est moins abouti. Alors peut-être qu'il y avait moins d'euphorie que dans le premier, mais en tout cas...
En tous les cas, la conséquence de ce second mandat, c'est que la majorité sortante est en mode puzzle, quoi. Vous présentez, vous, d'un côté, Émile Roger Lamberti sortant après avoir beaucoup hésité de l'autre, et puis le président de l'agglo au milieu.
Nous sommes d'accord. La majorité municipale est éclatée parce que déjà, la majorité municipale n'est pas uniforme, même si pendant de nombreuses années, on n'arrête pas de dire c'est une majorité de droite. Moi, je rappelle que non, c'est pas une majorité de droite. Déjà, c'est une majorité qui est majoritairement de droite, oui, mais avec des composantes centristes, des gens qui ont des individualités. Moi-même, j'ai ma propre individualité. Et puis, je rappelle aussi qu'en 2014, c'est pas la droite qui avait gagné, mais c'était un large rassemblement de la droite et du centre et de la société civile. Et même plus que ça, j'aurais tendance à dire qu'en 2014, c'est même pas la droite et le centre qui avaient gagné, c'est Alain Rodet qui a perdu. Donc, il faut savoir reprendre une certaine mesure par rapport aux choses et pas forcément réécrire l'histoire comme ça arrange. Souvent, les vainqueurs réécrivent l'histoire, c'est un petit peu dommage.
Bon, en tous les cas, cette fois-ci, vous vous présentez avec une liste qui est supposée réunir. Alors, elle réunit qui ?
Eh bien, en fait, elle réunit Limoges. J'ai pas cherché à décrocher, j'allais dire, des matuvus. de la politique. J'ai pas cherché à décrocher des personnalités de la politique, surtout pas. J'ai pas cherché à décrocher des gens qui sont des représentants de tel ou tel syndicat patronal, de telle ou telle association. Enfin, j'ai fait en sorte de pas aller voir des gens qui étaient finalement dans ce que j'appellerais l'entre-soi Limougeaud. J'ai voulu vraiment une liste qui ressemble à Limoges, parce que ma démarche depuis très longtemps, c'est de dire que au niveau local, et c'est pas moi qui le disais même alors, parce que j'aime bien cette phrase de Gérard Vandenbroek, un trottoir n'est pas de gauche, un trottoir n'est pas de droite, c'est un trottoir. Et quand on est maire d'une ville, quand on veut être maire d'une ville, quand on veut être dans une équipe municipale, on doit s'occuper de tout le monde. Et en dehors de tout clivage. Donc, c'est pas une liste qui est sans couleur politique. C'est une liste qui se veut transpartisane. Chacun a son individualité. Chacun pense comme il veut, essentiellement au niveau national. Mais la philosophie que j'ai impulsée d'en réunir, c'est de dire quand on arrive à réunir, on pose ses bagages à l'entrée de droite-gauche et on accepte une obligation. C'est de se dire que celui qui est en face de nous a peut-être aussi raison. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'extrême chez moi.
Alors, vous pouvez nous donner quelques exemples quand même de personnes qui ressemblent à Limoges.
Des personnes qui ressemblent à Limoges, c'est par exemple Marie-Laure Salomon, qui est responsable associative, notamment sur les questions d'autisme, qui elle-même souffre d'un trouble autistique. C'est quelqu'un comme Alexis Mons, qui est un grand chef d'entreprise, Imakina, la French Tech, Alliptic. Mais par opposition, c'est un Hugues Mathieu, qui est un retraité de la fonction publique territoriale, donc de la mairie de Limoges, qui était représentant syndical CGT, et qui est aussi président de Touche pas à mon pote. Parce que j'en ai plein. Alors, le problème, c'est que si je commence à en citer certains, les autres vont me dire « tu m'as pas cité ». C'est Dominique Ponté.
Vous pourrez toujours leur dire que vous aviez peu de temps aussi.
Voilà. Dominique Ponté, qui appartient notamment, qui était avec l'association Vélivélo et qui est fonctionnaire territorial. C'est Olivier Sénérier, qui est dans les métiers de la sécurité. C'est Magali Padre, qui s'occupe de tout ce qui est formation sur l'inclusivité. C'est Céline, qui est serveuse pas à Limoges, qui est serveuse à tout le monde connaît le Celtic à Couzex, mais qui habite Limoges. C'est Thierry qui est agent de sécurité. C'est Virginie qui est vendeuse chez Sephora. J'ai plein de profils en fait de la vie de tous les jours. Il n'y a pas. Je vous dis, c'est pas des personnalités au sens qui représentent des grands groupes, qui représentent des grandes associations. Ce sont des gens qui sont vraiment dans le quotidien. Et ces gens-là, en fait. C'est le cœur de Limoges. C'est ces gens qui font la vie de tous les jours. C'est des gens que vous rencontrez tous les jours quand vous allez acheter votre baguette de pain, quand vous allez faire réparer votre machine à laver, quand vous allez à la Fnac, parce que je vais citer un autre magasin comme ça, et que vous faites contrôler à l'entrée. C'est des gens que vous voyez au quotidien et qui sont tous investis dans leur travail, mais qui sont aussi investis dans des associations, qui sont investis dans tous les jours et qui, comme moi, se rendent compte qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est le dialogue. C'est d'être à disposition d'eux, parce que
ça veut dire qu'ils pensaient que a priori il y avait moins de dialogue sur les autres listes sortantes de la majorité municipale.
Oui, pour eux c'est très vertical tout ça. Pour eux, les différentes listes qui se présentent, il y a un chef. En gros, il y a un parti, il y a un chef, il y a un dogme, il y a une philosophie. Puis c'est descendant, et donc tout le monde fait pareil, le petit doigt sur la couture du pantalon et en avant.
Vous qui avez été de toute façon au cœur de la machine de l'exécutif sortant, qu'est-ce qui a fait finalement que le maire de Limoges sortant et le président de la métropole sortant ne sont pas arrivés à se mettre d'accord cette fois-ci?
Parce qu'il y a des batailles d'égo. Tout simplement, il y a des batailles d'égo, parce qu'il y a des ambitions personnelles qui ne sont pas forcément les mêmes. Je ne vais pas dire qui a plus d'égo que l'autre, parce que ce serait un match très difficile. À distinguer, mais et puis ils vous diront certainement la même chose de moi, hein. J'ai certainement beaucoup d'ego. De toute façon, il faut avoir un minimum d'ego quand on fait de la politique, paraît-il.
Quand on veut être candidat, oui, oui. C'est bien quand même. C'est une qualité.
C'est une qualité, et en même temps, tout dépend où vous placez cet ego-là. Moi, je sais que mon ego, bien évidemment, j'ai l'envie d'être maire. Je pense que je suis de tous les candidats qu'il y a aujourd'hui, même le sortant, celui qui a l'envie ou l'ambition d'être maire depuis le plus longtemps. Moi, c'est quelque chose qui me tient depuis 2005. Émile Roger Lamberti a pensé à être maire en 2013 quand il a été cherché par Guillaume Guérin. Guillaume Guérin n'a jamais voulu être maire. Je ne pense pas qu'il le veuille encore aujourd'hui. Même s'il est candidat, ce n'est pas la même chose. Vouloir être candidat, porter une liste et vouloir être maire, ce sont deux choses bien distinctes.
C'est quand même assez paradoxal ce que vous dites. Non. C'est qu'il est tête de liste et en fait...
Mais je ne suis pas certain qu'il ait envie d'être maire. Enfin, alors, en tout cas, moi, il ne l'a jamais exprimé.
Cela dit, ce ne sont pas les électeurs qui élisent le maire. Hein. On rappelle que c'est le conseil municipal qui se réunit au lendemain du second tour, dans la semaine qui suit le second tour, qui va élire le maire. Et c'est vrai que c'est un usage dit républicain que d'élire la tête de liste, mais ce n'est pas une obligation juridique.
Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, c'est même, souvent je l'ai rappelé, c'est que le maire n'est pas élu directement par les gens. En revanche, ce qu'il y a, c'est que quand vous avez un tête de liste, il incarne quelque chose. Et que ça me semble compliqué de vouloir incarner un rassemblement et d'incarner, entre guillemets, Limoges, si on ne veut pas soi-même être maire. Ou alors c'est qu'on n'a pas compris. Mais pour ça, il faut y vivre, il faut y être, il faut être au milieu de Limoges, il faut y acheter, il faut y aller voir les commerçants, il faut aller voir les gens, il faut vivre dans la ville. Moi, pour moi, un maire, ou une maire d'ailleurs, enfin... c'est quelqu'un qui est vraiment, qui fait de la politique au sens premier du terme, celui qui est au milieu de la cité. Quand on veut être maire de Limoges, quand on veut être maire tout court, on n'a que cette ambition-là. On n'a pas l'ambition d'être sénateur, d'être secrétaire d'État, d'être ministre, d'être conseiller régional ou autre chose. Si on veut être maire, c'est une fonction à plein temps. Et c'est pas un marchepied politique non plus.
Si je vous écoute entre les mots, ça veut dire qu'en fait, pour l'actuel président, selon vous, de la métropole, Limoges n'est qu'un marchepied vers une autre destination.
C'est vous qui le dites.
Non,
par rapport à ce que je dis, moi, je pense que Guillaume Guérin n'a pas forcément l'ambition d'être maire. Alors peut-être que c'est un passage obligé pour être, j'allais dire, pour justement aller plus loin, pour être reconnu. Mais je ne suis pas certain que ce soit une finalité. Moi, je ne dis pas que c'est une finalité non plus pour moi. Je dis juste que je suis là pour servir ma ville avant tout.
Alors, pardonnez-moi, nous n'ayons pas beaucoup parlé des autres candidats, mais...
On va équilibrer le temps vis-à-vis de Thierry Miguel et Damien Maudet, si vous voulez.
Non, mais on va surtout parler de votre programme,
Bien sûr,
parce que c'est ça qui est quand même, qui fait l'objet de notre entretien du jour. Lucie, vous aviez quelques questions à poser à Vincent Léoni.
Effectivement. Est-ce qu'on commence par le transport?
Par exemple.
Allons-y. J'ai vu que vous vouliez mettre fin au projet Mouvéo, BHNS, bus à haut niveau de service, selon comment on l'a entendu. Ma première question, c'est pourquoi?
Alors, tout simplement parce que, déjà, Mouvéo, il faut replacer les choses. Le BHNS, c'est un projet qui a 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on mène des études et je valide le fait que j'ai voté pour, il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est que moi, j'ai voté pour un principe d'une ligne de transport qui améliorerait le quotidien. Et de préférence avec le meilleur rapport qualité-prix. Aujourd'hui, le projet qui est présenté va coûter approximativement 250 millions d'euros pour deux lignes structurantes, entre guillemets, sans qu'on ait repensé à ce qui va avec et qui ne répondent pas à tous les critères. Un bus à haut niveau de service, Mouvéo, c'est censé être en site propre pour gagner de la vitesse commerciale, comme on dit. Aujourd'hui, quand vous regardez l'enquête publique, ce qui est proposé, seul 20% du tracé sera en site propre. C'est-à-dire que 4 minutes sur 5... vous le faites au milieu de la circulation. Donc, on n'est pas gagnant. En plus de ça, la ligne Mouvéo s'arrête à 400 ou 500 mètres du CHU. Je vois pas l'intérêt. En plus de ça, cette ligne-là ou ces lignes-là telles qu'elles sont pensées ne desservent pas deux quartiers principaux de Limoges, que sont un tout petit peu Bonne-les-Mines et Landouge. Et habitant Landouge, je peux vous dire que les transports en commun à Landouge, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que aujourd'hui, si je prends ma voiture, moi, pour aller à la mairie de Limoges, c'est parce que si je prends le bus qui s'arrête à 1 minute 30 de chez moi, j'ai un arrêt de bus dans la rue Jean de Vienne. C'est parce que, au départ de Landouge, vous mettez 40 minutes pour rejoindre la mairie de Limoges. Donc, c'est juste paradoxal. Aujourd'hui, Mouvéo, tel qu'il est conçu, tel qu'il est pensé, c'est-à-dire juste, je mets deux grands axes, et c'est bien, ne répond pas aux besoins de mobilité, et ne va pas fluidifier la mobilité dans la ville. Et si, en plus de ça, je reprends les arguments du maire de Limoges, savoir que tout ce chantier qui va être mis en place va créer des sens uniques, va gêner la population, sur cette partie-là, je suis d'accord aussi, ça pose problème. Je ne suis pas, que je me fasse bien entendre, je ne suis pas contre les sens uniques. Mais pour moi, et c'est un vrai problème que l'on a au sein de Limoges Métropole, là maintenant, et même au sein de la mairie de Limoges, c'est que très clairement, malheureusement, nos dirigeants, nos responsables actuels, ne prennent pas de hauteur systématiquement. Il y a un dossier, je reprends ce terme d'Émile Roger-Lamberti parce qu'il l'a repris souvent, on traite en pétassou. Vous avez un pétassou, c'est le transport, je vais traiter le pétassou bus à haut niveau de service. Ok, super, sauf qu'on ne réfléchit pas des conséquences qu'il y a sur les circulations autour, sur les reports modaux autour, sur les vélos, sur les voitures, sur le stationnement. On ne réfléchit pas à ça, on regarde un par un. Vous voyez, en 2014, j'avais proposé dans le programme porté par Pierre Coineau à l'époque, qu'on fasse un grand sens giratoire à sens unique autour de l'œuf. Ce qu'on appelle l'œuf, c'est l'hypercentre. Je tape dans le micro, excusez-moi. Ce fameux boulevard central, qu'on le fasse passer en sens unique, un petit peu comme à Brive. Mais à l'échelle de Limoges, afin de fluidifier. Le maire de Limoges a dit « Oui, super, bonne idée, on va lancer une étude. » On lance une étude. Ok, sauf que l'étude, elle donne quoi? Ça ne fonctionne pas. Je dis « Ah mince, ça ne fonctionne pas. » Donc Vincent ne le fera pas. Très bien, monsieur le fait, on le fait pas. Sauf que quand on regarde l'étude, en fait, il n'a été étudié que la mise en sens unique de ce carrefour giratoire. On n'a pas regardé ce qui allait autour parce que on n'a pas dit, ah, mais mince, si je mets un sens unique ici, il faut que je regarde un peu plus largement. Qu'est-ce que ça va générer comme contrainte et qu'est-ce que je dois réfléchir? Et donc, en fait, on n'a pas réfléchi à un plan de déplacement urbain généralisé. Et c'est tout le problème. C'est que les élus aujourd'hui et ceux qui dirigent notamment ne prennent pas de hauteur et réfléchissent un petit peu en pétassou. Et moi, ce que je propose, c'est une autre méthode. C'est qu'on réfléchisse avec de la hauteur, comme je l'ai fait pour porter le plan local d'urbanisme de Limoges, comme je l'ai fait avec le plan local d'urbanisme intercommunal de Limoges, comme je l'ai fait avec le schéma de cohérence territoriale, parce que je suis un petit peu le spécialiste de la question quand même, qu'on réfléchisse avec de la hauteur. Il faut, avant de penser BHNS, qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on va circuler de façon intégrale dans Limoges et comment ensuite on repense la place des différents bus, donc des lignes classiques, des plans en marguerite notamment, et comment après on structure ça avec deux grandes lignes qui, elles, desserviraient l'ensemble. Et quand vous avez pensé à tout, ben vous n'avez plus de problème. Et ça éviterait que les gens de la Mauvandière gueulent à raison avec la pétition qu'ils font parce qu'aujourd'hui, la fermeture de la rue du côté de la Mauvandière ne sera pas de qualité.
C'est justement pour ça que vous voulez du coup mettre le plan de circulation globale en place, co-construit avec habitants, commerçants et usagers.
Exactement. L'idée, c'est qu'il faut penser de façon globale. Il faut discuter avec les gens. Vous savez, la vérité, souvent, très souvent, vient du terrain. Il ne faut pas dire oui à tout. Je pourrais parler de la place de la République où on a voulu justement trop écouter le terrain et c'est pour ça qu'on a commis des erreurs sur la place de la République. Et j'assume qu'il y a eu des erreurs faites de place de la République. En revanche, ce qui est certain, c'est que si on ne va pas au contact des gens, si on n'échange pas, on ne comprend rien à la vie.
Ce serait un référendum ou porte-à-porte? Comment vous
faites? Non, pas référendum. Je pense qu'il faut faire, exactement ce que j'ai fait sur le plan local d'urbanisme ou sur l'aménagement des bords de Vienne, hein, que j'ai porté. Il faut faire des ateliers de co-construction. Il faut inviter la population à venir, participer à des ateliers, échanger, discuter. Et ensuite, quand il y a des propositions, on amène des choses. Vous partez du référendum, ça fait partie des propositions que j'ai aussi. Alors, pas de référendum. En revanche, je m'engage sur une chose, parce que ça, j'y tiens aussi. C'est que ce qui ne sera pas dans mon programme, si je suis élu demain avec mon équipe, s'il y a des choses importantes qui n'ont pas été votés dans le programme, mais qui devraient voir jour pendant le mandat, je saisirai la population d'une façon ou d'une autre. Je pensais mettre en place certainement une votation par Internet pour avoir au moins, à défaut d'avoir un référendum, au moins avoir une tendance de ce que pense la population. Parce que je trouve un petit peu quand même facile, quand on est élu, de faire tout et n'importe quoi ensuite sans qu'on l'ait dit dans le programme.
Potentiellement, vous pouvez au second tour vous rapprocher de qui?
Alors, il faut poser la question dans l'autre sens. Qui se rapprochera de moi? Parce que ça, si vous me dites ça, ça sous-entendrait que je sois derrière quelqu'un. Moi, mon ambition, c'est pas d'être derrière, même si aujourd'hui, je suis un outsider. Mais il y a plein d'outsiders qui gagnent la course et qui gagnent beaucoup d'argent à ce moment-là.
Alors, prenons-le sous l'angle du programme. Quels sont les programmes qui, a priori, sont les plus proches de vos propositions, quitte à faire quelques amendements dans le sens de la méthode que vous proposez?
Aujourd'hui, alors déjà, il y a deux choses. Je ne pourrais pas m'associer avec des partis d'extrême, ça c'est sûr. Parce que comme je disais tout à l'heure, réunir, c'est pas opposer. Or, les partis extrêmes opposent. Donc, je ne peux pas. Je parlerai de l'arc républicain, donc. Donc, les partis classiques.
Ça veut dire que pas le candidat qui est soutenu par LFI.
Pas LFI, pas RN. C'est juste pas possible. Parce que des gens, ça ne le pourrait pas, parce que je ne pourrais pas moi-même. Et parce que je vous dis, je n'adhère pas aux extrêmes. Je n'adhère pas aux gens qui opposent d'une façon ou d'une autre. Quand bien même, ils ont des bons sentiments pour rassembler, à un moment donné, ils s'opposent. Et donc, ça ne va pas. Ensuite, alors, me rapprocher des programmes, bah j'attends de voir le programme d'Émile Roger-Lamberti et de Guillaume Guérin, déjà, pour savoir si je pourrais me rapprocher de leur programme.
Vous avez failli dire Thierry Miguel.
Alors, non, parce que Thierry Miguel, justement,
Vous le connaissez, le programme.
Parce que, alors, Thierry Miguel a un programme. Il fait partie de ceux qui ont présenté déjà un programme. Donc, c'est pour ça que je peux parler de Thierry Miguel un petit peu. Plus compliqué de parler du programme d'Émile Roger-Lamberti, pardon, parce que lui, c'est plus un bilan. C'est pas des propositions, c'est un bilan. C'est regarder ce que j'ai fait et il lisait moi pour être maire 2 ans avant que je passe la main. Ok, super. Et Guillaume Guérin a fait juste des propositions sur la sécurité. J'ai rien vu d'autre pour l'instant non plus. Donc, par rapport à ces propositions sur la sécurité, comme celles que je fais moi, sont déjà plus abouties, bon, je pense qu'il pourra facilement se raccrocher à mon programme, Guillaume Guérin, par rapport à ces questions-là. Pour le reste, je ne sais pas s'il pourra se rapprocher ou pas. Faudra regarder. Et puis, pour ce qui est de Thierry Miguel, il y a des points, on a déjà des points de convergence. Il y a des points qu'on a en commun, voire même des idées qui m'ont été prises, puisque je parle de la fameuse régie municipale d'achat groupé et compagnie. C'est quelque chose qu'on a proposé depuis novembre-décembre dans la programmatique et qui a été déjà reprise dans le programme de Thierry Miguel. Donc, vous voyez, on a des points communs. Ça veut dire que les bonnes idées n'étant pas de droite ni de gauche, quand elles viennent de réunir, elles sont reprises par les autres. Ça me va très, très bien. Mais Thierry Miguel, on peut discuter. Je pense qu'avec Guillaume Guérin, on pourra discuter. Avec Émile Roger-Lamberti, s'il veut qu'on discute, on pourra essayer de discuter. De toute façon, moi, l'important, s'il devait y avoir un rapprochement au second tour, c'est-à-dire les gens doivent venir à nous, ou à l'inverse, que je vais à eux, parce qu'on n'est pas à l'abri que finalement je sois pas premier. Ça peut arriver, sur un malentendu. L'idée serait que j'aurais deux préalables. Le premier, c'est que notre liste rejoindra quelqu'un d'autre ou sera rejoint par quelqu'un qui ne voudra pas mettre un étendard sur la mairie de Limoges. C'est-à-dire que moi, le but, c'est pas que la mairie reste à droite ou passe à gauche. Ça, pardon, mais moi, je m'en fous et les gens, ils s'en fichent aussi. On n'en a rien à faire de ça. Ce qu'on veut, c'est s'occuper des gens. Donc, premier point, on enlève les étiquettes, les machins, compagnie. On arrête de dire, oui, super, la gauche a repris le pouvoir ou la droite l'a conservé. Ça, on s'en fiche. Et premier préalable. Et deuxième préalable, c'est on regarde les programmes et on regarde ce qui est utile aux gens et ce qui n'est pas juste cosmétique. Voilà. Et si on est sur des choses importantes, par exemple, on arrête Beaublanc parce que ça rime à rien. Mais en revanche, pendant les 4 ans où on arrête Beaublanc, on réinvestit l'argent directement dans les écoles. Là, on peut commencer à discuter. Et le projet Beaublanc, si on veut
là,
le continuer...
Là, vous êtes d'accord avec Thierry Miguel, par
oui, exemple. Mais là-dessus, on est d'accord, bien évidemment. Mais comme je pourrais être d'accord avec d'autres qui commencent déjà à dire « Oui, mais Beaublanc pourra réfléchir parce qu'on hésite. » Non, mais Beaublanc... Alors, 2014, programme avec Pierre Coineau. Une nouvelle salle pour Limoges, c'est Vincent Léoni qui l'a écrit dans le programme. C'est pas Émile Roger-Lamberti, c'est Vincent Léoni. Une salle de 10 000 places. Et d'ailleurs, si on avait fait ce que j'ai proposé à l'époque, on aurait peut-être même pu avoir des épreuves des JO qui auraient été faites à Limoges. Mais passons. Le fait est que cette salle, j'ai toujours dit qu'il en fallait une. Mais dans le cadre d'un projet de club. En 2014, ça avait du sens. Le CSP remontait, repartait vers l'Europe et compagnie. Il y avait du sens à faire quelque chose. Aujourd'hui, quel est le projet de club du CSP? Il y en a certainement un. Et d'ailleurs, c'est M. Pellué qui a dit on n'a pas vraiment été concerté, on n'a pas pu vraiment discuter. Le LH est en pleine bourre, comme on dit. C'est très bien, mais quel est le projet du club? Et autour de tout ça, montons un projet, mais pas que financé par la ville. Il faut un projet de territoire. 89 millions d'euros portés par la ville. Hors taxe, hein. On est à près de 100 millions TTC. Pour une salle où on gagne 500 places. Alors je sais, Émile Roger-Lambertier va vous dire « Oui, mais il y a deux salles à côté. » Oui, mais pardon, on s'en fiche. Le jour où il y a un événement, c'est dans la grande salle où on va. C'est pas la petite salle d'à côté, c'est pas avec le VIP. C'est est-ce qu'on a une salle de 10 000 places? Non. 8? Non. 7? Non. 6 300 places. Conclusion, ça ne rime à rien pour 89 millions d'euros. En revanche, si on suspend pour mettre l'argent dans les écoles et que pendant les 4 ans, on réfléchit à ce projet avec les clubs et qu'on va chercher des fonds régionaux, départementaux, métropolitains, européens, nationaux, c'est plus la même. Et pourquoi pas du naming? Pourquoi pas un partenariat public-privé? Pourquoi pas associer les clubs comme partenaires de la salle? Enfin, réfléchissons deux secondes. Il n'y a qu'à Limoges qu'on veut faire une salle avec le nom du maire qui sortira au bout. Non, non.
Alors, l'autre question importante, c'est comment on relie Limoges à l'extérieur, à la capitale, y compris à la capitale régionale, mais à la capitale nationale aussi. On parle beaucoup, enfin, un candidat s'attribue beaucoup le mérite de la nouvelle du rétablissement de la liaison aérienne, sauf que c'est une réussite collective, on va dire. Alors, comment on peut faire mieux, notamment vers Angoulême?
Alors déjà, on ne réussit jamais seul. On réussit toujours en groupe. Ça, c'est le principe de réunir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas que ce soit grâce à un seul homme qu'on ait une ligne d'avion, surtout avec une délégation de service public, avec des aides de l'État. Il me semble que c'est plutôt le gouvernement qu'on devrait remercier à ce moment-là. Mais peut-être que ce candidat-là est soutenu par le gouvernement, hein, j'en sais rien, s'il fait un rassemblement très très large. C'est possible. Peut-être même qu'il est devenu macroniste. J'en sais rien. Mais passons.
Sait-on jamais.
Sait-on jamais sur un malentendu. Mais le fait est que non. Aujourd'hui, oui, l'avion, ça supplée. Mais attention, l'avion, ça ne peut pas être la solution pour rejoindre Paris. Je suis désolé, mais baser toute l'évolution des mobilités sur les carburants carbonés, ça sert à rien. Non, je suis d'accord avec vous. La solution, elle est au niveau du train. Il faut absolument qu'on ait une ouverture vers Bordeaux. Donc la ligne Limoges-Angoulême. 100% favorable. L'amélioration de la ligne Limoges-Paris, 100% favorable. On n'aura jamais de TGV, on n'aura pas de POLT, parce que on s'est combattu à gauche, à droite. On savait pas ce qu'on voulait ensemble et on n'a jamais su se réunir pour arriver à avoir une position commune. Ça, c'est certain. Mais aujourd'hui, très clairement, la mobilité du train, oui, il en faut et je la défendrai. De même que le train local dans mon programme, il y a notamment le fait que je défends le tram-train. Alors, ça nous relie pas à Angoulême, ça ne nous relie pas à Paris, le tram-train, mais en revanche, ça permet aussi de désengorger Limoges, des voitures, en faisant en sorte que quand on arrive du Vigin, plutôt que de mettre 25 minutes à partir du Vigin et à rejoindre le centre-ville, puis 10 minutes à trouver une place, vous faites 9 minutes en train et vous arrivez à Gare des Bénédictins. Donc, si on repense les déplacements de façon globale, on gagne un petit peu de temps. Mais oui, il faut des transports en commun rapides, les plus rapides possibles, entre la capitale régionale et Paris.
Et avec un cadencement qui soit acceptable aussi pour le public et les usagers.
Nous sommes d'accord, mais pour obtenir ça, à un moment donné, il faut qu'il y ait des élus locaux qui pèsent. Or, on n'a rien depuis des années. Ça veut dire que nos élus locaux ne pèsent pas. Et je parle des dirigeants.
Ah, c'est un constat un peu terrible là, que vous faites.
Mais c'est une réalité. C'est une réalité. C'est même Alain Rodet, enfin je vais pas invoquer les anciens, mais bon, on disait tout le temps, enfin moi je me souviens de la phrase qui m'avait été dite, Alain Rodet est un géant local, est un nain national. Alors je ne m'attribue pas ça du tout. Je dis Alain Rodet a fait des choses très très bien, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il y a des maires qui savent peser et d'autres qui ne savent pas peser. Voilà. Et que juste crier au loup ou attention, je connais tel ministre, je vais faire ci, je vais... Non, moi c'est les actes. J'attends de voir la prison à Limoges qui doit changer. J'attends de voir la ligne LGV à Limoges qui n'arrivera jamais. J'attends de voir l'amélioration du train avant 2028-2029. Ça n'arrive pas. Donc voilà. Donc, alors, OK, on a un avion. Super. On a un avion avec Volotea. C'est déjà pas mal. Mais quand même, j'attends des actes. Ça, c'est, vous savez, c'est comme l'emploi. Quand j'entends des élus qui disent, nous avons créé tant d'emplois. Un élu ne crée jamais comme emploi que des fonctionnaires. En revanche, un élu peut créer des conditions pour que des emplois viennent s'installer sur la ville de Limoges. Il faut faire attention à ce que l'on s'attribue.
Vincent Léoni, merci. On arrive au terme du temps qui nous était imparti, qui vous est imparti par l'autorité de régulation et le cadrage des temps de parole entre tous les candidats. On vous a offert la possibilité de faire un choix musical pour conclure ce moment passé ensemble. Et vous avez choisi
Aurel San et L'odeur de l'essence.
Et pourquoi ce morceau?
Alors parce que, un, j'aime beaucoup Aurel San déjà. Il passe le 9 mars d'ailleurs à Limoges, j'en fais pas la publicité. C'est pendant la campagne électorale, donc j'aurais peut-être pas le temps d'aller le voir. Mais tout simplement parce que moi ce genre de titre m'intéresse, parce que justement L'odeur de l'essence, il faut faire attention à ce qui se passe. Il faut être attentif, et ça c'est le rôle des élus, d'être attentif, pour éviter justement que la fureur et l'odeur de l'essence reviennent dans les rues. Il faut être très attentif à ce qu'on fait et éviter de mettre, j'ai dire, du kérosène sur le barbecue par des propos inappropriés ou par des positions inappropriées.
Vincent Léoni, merci d'être venu au micro des radios associatives du Limousin en Haute-Vienne, et on vous donne rendez-vous dans un proche avenir.
À très bientôt.
À très bientôt.
Merci.
Faire miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrée sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne n'en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence. Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis, que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réel, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible.
tout le monde baisse tout le monde, peut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle ça justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols, comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à l'inconnu dans le rejet. Mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreuses radicalistes. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques. D'une époque où... Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les 2/3 de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent ou flippent de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions, donc on les cache, c'est pas gérer nos relations. Donc on les gâche, assume pas ce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
C'était Objectif Municipal, le rendez-vous des candidats face aux journalistes de nos rédactions.